Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est BFM Patrimoine qui vous accueille comme chaque matin de 10h à midi pour vous permettre de gérer au mieux votre patrimoine. Et ces deux heures d'expertise débutent comme chaque jour par toute l'actualité économique avec ce matin Raphaël Couder.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une ce matin, l'inauguration de la toute première usine de batteries électriques sur le sol français. Ça se passe près de Lens, dans le nord de la France. Et c'est ACC, la co-entreprise de Stellantis, Total Energy et Mercedes, qui ouvre donc cette première Gigafactory. Une étape clé dans le virage du secteur automobile vers l'électrique et un événement qui accueille d'ailleurs la présence de trois ministres français ainsi que des responsables allemands et italiens. C'est inédit, depuis 2015, les prix de l'immobilier dans l'ancien ont reculé au premier trimestre, une baisse de 0,2% selon l'indice notaire INSEE. L'immobilier est victime de la remontée rapide des taux d'intérêt, remontée qui pénalise lourdement les ménages qui cherchent à emprunter pour acquérir un bien. Sur un an, les prix continuent d'augmenter de 2,7%, mais c'est une très nette décélération par rapport à la fin de l'année dernière. Après la fraude fiscale, le gouvernement dégaine son plan contre la fraude sociale. Objectif, doubler les redressements d'ici à 2027. Pour cela, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, compte sur tout un train de mesures, comme le renforcement des conditions pour bénéficier des allocations, ou bien encore la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité. Le crédit aux entreprises se porte bien, c'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Observatoire du financement dévoilé aujourd'hui. L'encours total du crédit progresse encore de 6,4% sur un an. Bref, les banques françaises continuent de prêter, détail Frédéric Wisnowski, le médiateur national du crédit à la Banque de France. Écoutez.
Les entreprises ont été résilientes au travers de la crise de la Covid, le début de la crise énergétique, inflation, etc. On a un accès au financement qui reste dynamique. On a un taux de croissance de 6,4% sur un an, donc qui reste important. Avec, on voit des grandes entreprises qui se sont reportées d'ailleurs sur le crédit bancaire. Mmh. Le financement de marché coûte un petit peu plus cher en ce moment.
Voilà, et puis c'est le jour du grand oral pour les candidats à la présidence du MEDEF. Dominique Carlac et Patrick Martin vont être auditionnés par l'Assemblée Générale de l'Organisation Patronale. Les deux prétendants vont présenter leur programme en vue de l'élection qui aura lieu le 6 juillet prochain. Et en attendant, je vous rappelle ce rendez-vous à ne pas manquer, le débat à suivre sur BFM Business entre les deux candidats le 26 juin prochain.
Merci beaucoup Raphaël Couder, chaque heure, pour lire l'actualité économique. Et nous, on file à la bourse.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
À la bourse, pour retrouver Antoine Larigauderie. Bonjour Antoine, depuis le siège d'Euronext à la Défense. Et une tonalité plutôt négative ce matin.
Oui, alors c'est vrai, c'est une baisse plutôt technique, on va dire, pour le CAC 40, parce qu'on avait le malheur de coter hier, hein, contrairement à beaucoup de places boursières qui ont pris un week-end prolongé. Et donc, du coup, comme on a eu une baisse en clôture, ça a instillé une tendance un petit peu négative, contrairement aux autres indices européens qui ont tendance à remonter. C'est le cas notamment de l'Eurostock 50, plus 0,08% et plus 0,3% maintenant pour le DAX à Francfort. Et nous, on est en repli de 0,4%, 7274 points. Alors, rien de bien grave, une baisse plutôt modérée. On va lisser un petit peu ce gap avec le reste des places européennes. Mais voilà, c'est un style, une tendance négative pour commencer la journée. Et puis, à noter un indicateur qui clignote vraiment en rouge hein, depuis ce matin, c'est l'euro-dollar qui a vraiment cassé le palier d'1,07 avec un peu de violence. Hein. C'était entre 8 et 9. Et on est descendu jusqu'à 1,0680. On est sur des plus bas qui datent de la mi-mars, à peu près, face à un dollar qui remonte en force et qui remonte en force non seulement contre contre euro, mais contre toute monnaie et contre l'or, puisque l'once d'or fin redescend du côté des 1930 dollars, et ça aussi, c'est un plus bas depuis la mi-mars. Les indicateurs techniques ne trompent pas. Donc cette remontée du dollar, elle marque un petit peu la tendance. Du côté des taux d'intérêt, si on regarde les taux 10 ans, on a une petite consolidation quand même pour les taux européens, 2,96 pour la dette française, 2,39 pour la dette allemande. Consolidation aussi pour la dette américaine, on est à 3,7%. Donc là, on garde des points d'équilibre, mais c'est vraiment le dollar qui profite des dynamiques actuelles. Du côté des valeurs, des actions, sur le CAC 40, c'est Société Générale qui s'empare de la dette des progressions à plus de 27, à 22,50 €. On a également un peu de techno avec Dassault Systèmes qui gagne 1% à 40,73 €. Des valeurs un petit peu plus défensives comme Sanofi qui gagne 0,68% à 96,04 €. Techno, on revient aussi sur STMicro qui gagne 0,93% à 40,57 €. Il y a eu des prises de bénéfices hier après l'extraordinaire performance d'Nvidia qui a tiré l'ensemble du secteur. On a fait baisser un petit peu STMicro, mais il y a encore des acheteurs sur les points d'entrée actuels. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Du côté des baisses, alors à noter Total Energy qui recule de 0,8% à 55,27 €. Dans le sillage des cours du brut, on remontait vers les 78 $. Là, on redescend du côté des 76. Donc on a Total qui recule de 0,8% à 55,24 €. Il ne faut pas oublier qu'on a une réunion de l'OPEP dimanche prochain qui pourrait avoir un impact sensible sur les cours et peut-être sur le cours des pétroliers. Danone recule de 0,96% à 56,75 €. On a Pernod Ricard aussi moins 0,52% à 209,80 €. Le CAC 40 donc moins 0,39 à 7275 points. Et donc l'euro plus bas depuis la mi-mars. Face au dollar, on est à 1,0692 en ce moment.
Antoine Larigauderie, chaque matin, pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Nous, les actions nous intéressent et on reste au contact de ce monde. On explore la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Grâce à Eric Lewin qui nous attend à la Bourse au quotidien. Bonjour Eric.
Bonjour mon cher Cédric.
Merci d'être au rendez-vous et vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur Capgemini.
Oui, écoutez, parce que franchement, je trouve qu'il y a un vrai traitement de défaveur sur le champion français du secteur informatique. L'action est stable depuis le début de l'année, alors que le CAC 40 gagne plus de 12%. Alors bon, on dit que c'est une évolution due à l'attentisme de certains clients qui estiment que face à la flambée de l'énergie ou encore à l'instabilité économique, une pause dans la transition digitale s'avère nécessaire. Mais enfin bon, je crois pas tellement à cet argument, parce que franchement, les publications sont plutôt bonnes. Sur le premier trimestre, on a une croissance de 10,7% du chiffre d'affaires à 5,7 milliards, avec une croissance minimum attendue sur l'année à 5,5. On est bien sûr en organique, la société demeure vraiment bien gérée, avec des prévisions 2023 très séduisantes, une marge opérationnelle entre 13% et 13,2%, un free cash flow organique de l'ordre de 1,8 milliard, S&P a relevé la note du groupe de 3B à 3B+, avec une perspective stable sur l'ensemble de l'année, donc on aura une croissance entre 4 et 6%, et également en 2024. Alors il faut savoir que le groupe a bien changé depuis l'acquisition d'Altran il y a bientôt 4 ans, en proposant maintenant des solutions sur l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe, si bien qu'on peut maintenant parler vraiment de spécialistes en conseil technologique et non de plus ESN ou encore entreprises de services numériques. Vous savez qu'il y a des ratios nettement supérieurs sur les entreprises de conseil technologique, cela veut dire des marges plus élevées et un regard vraiment des investisseurs différents que lorsqu'on a affaire notamment à une simple société de serveurs informatiques. Alors je le disais, l'action ne fait pas grand-chose, elle est flat depuis le début de l'année et ses ratios de valorisation sont vraiment intéressant. On a par exemple un PER de 11,5 sur la valeur au cours actuel, ce qui est nettement inférieur à sa moyenne historique où on est plutôt entre 15 et 17. Donc je considère que franchement le titre est complètement, mais alors complètement délaissé par les investisseurs et mérite une revalorisation au moins jusqu'à 185 €. Je crois que les plus hauts c'est autour de 220. Je dis pas qu'on va retourner Cédric sur les 220, mais il y a minimum 20-25% à regarder sur ce dossier.
Voilà donc Capgemini, éclairé ce matin par Eric Lewin. Merci Eric, bonne séance.
Beaucoup, Cédric.
Le marché parisien qui baisse de 0,38%, 7276 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Irina Topasseri nous attend chez AXA IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci d'être là ce matin avec nous pour commenter cette actualité conjoncturelle. Et en Europe, on va avoir plusieurs indices de confiance pour le mois de mai. On parlera des consommateurs, mais aussi de l'industrie et des services. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces indicateurs ?
Effectivement, c'est l'enquête de la Commission européenne qui va être publiée. Nous avons d'ores et déjà eu un flash, une estimation rapide de l'indicateur de consommation du mois de mai, du sentiment des consommateurs qui était vu en amélioration. Donc ça devrait être validé. Je pense que le risque l'importe sur cette lecture-là de cet indicateur, de ces indicateurs-là, de cette enquête, porte sur l'industrie, effectivement, au vu de toutes les déconvenues qu'on a pu voir sur les enquêtes nationales telles que l'IFO, l'INSEE ou les PMI. Vous avez vu la semaine dernière, donc ces enquêtes auprès des directeurs d'achat où on a eu les commandes à l'exportation baissées assez fortement, mais aussi les nouvelles commandes tout court. Et aussi donc cet élément qui est plus technique, mais qui pèse et qui continuera quelque part de déflatter, si vous voulez, l'indice global, qui est donc tout ce temps de livraison. Ces temps de livraison qui se réduisent, ceci est lié plutôt à la détente des goulots d'étranglement qu'on a sur la chaîne d'approvisionnement et pas lié à la demande. Enfin bon, la enquête est telle conçue que quand ça se réduit, ça a tendance à déflater justement l'indice global. L'intérêt de cette enquête de la Commission est effectivement que l'échantillon est beaucoup plus large que toutes les autres enquêtes, y compris les PMI. Et donc la question, c'est de savoir effectivement si à quel moment effectivement la réouverture, par exemple, de la Chine va pouvoir retourner un peu la tendance sur l'industrie européenne. Et du côté du consommateur, ça reste vrai que le consommateur européen risque d'être beaucoup plus résilient, si vous voulez, au niveau élevé de l'inflation aujourd'hui, car il bénéficie de l'épargne. Le marché de l'emploi est tendu. On a vu d'ores et déjà des accélérations salariales, et puis les mesures du gouvernement en général protègent le consommateur face à la crise de l'énergie actuellement.
Voilà donc pour notre zone européenne, et on va lire bien évidemment tout cela avec beaucoup d'intérêt. Et puis outre-Atlantique, il y a également quelques chiffres à l'agenda sur l'immobilier et sur la confiance des ménages, pouvant d'ailleurs être lié. Qu'est-ce que vous attendez de ces indicateurs américains?
Oui, ils sont effectivement un peu tous liés, et tous en fait doivent nous aider à revenir un peu au noyau, si vous voulez. Nous avons eu la semaine dernière les minutes du FOMC du mois de mai qui révélaient effectivement que le board des directeurs, donc des décideurs de la politique monétaire aux États-Unis, retient, si vous voulez, cette optionnalité sur la suite de la politique monétaire. C'est-à-dire que la pause ou plus de resserrement, ça reste encore à voir. Je ne sais pas si vous avez lu, la sémantique, elle est assez fine. On dit que quelques participants souhaite plus de resserrement et plusieurs participants tablent sur une pause. Donc, en assumant que plusieurs, c'est mieux que quelques, ça fait plus nombreux. Enfin, on se rend compte à quel point c'est le détail qui va être important. Donc, toutes ces micro-données économiques vont être scrutées très profondément par nous, mais bien sûr par le board des directeurs, pour savoir vers où on va se guider. Et le sujet spécifique du marché immobilier va être au cœur de ces décisions. Alors, pourquoi ? Parce qu'effectivement, plus le marché immobilier confirme, si vous voulez, sa tendance actuelle, hein, d'ailleurs, qui a été d'une baisse des prix de l'immobilier, plus on aura une assurance pour la Réserve fédérale que cela va filtrer dans les loyers. En général, il y a un an d'écart entre les deux. Et donc ça va aider l'inflation sous-jacente à baisser. Donc c'est ça, en fait, qui va être au cœur de la Réserve fédérale. Et historiquement, effectivement, les permis de construire sont très corrélés avec les ventes. Sauf qu'au mois d'avril, nous avons eu, de manière inattendue, un rebond des ventes. Donc c'est ça qui va être au cœur à regarder. Est-ce que c'est une anomalie, si vous voulez, statistique? Espérons-le, et que ça va être corrigé ce mois-ci. Sinon, effectivement, ça remet en question effectivement cette désinflation qui devrait prendre corps dans les mois qui suivent. Alors, pour l'instant, on va dire que c'est une anomalie, on va la confirmer ou pas sur les prochaines données, mais ça va être très tendu là-dessus, parce que on va imaginer que aujourd'hui, avec des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers qui sont autour de 7%, on voit bien que les taux réels sont largement positifs. Bien sûr, en appliquant l'inflation actuelle, mais aussi quand on voit que les anticipations des ménages américains à un an tablent sur une inflation à 3%. Donc le marché immobilier devrait confirmer justement cette baisse. Et puis sur la confiance des ménages, vous disiez tout à l'heure, effectivement, le Conference Board du mois de mai, on a eu une détérioration ces derniers mois, mars et avril, hein, donc probablement sur ce fond de tension dans le secteur bancaire américain. Maintenant, je pense que ça devrait se stabiliser, justement, le sentiment devrait se stabiliser après ce recul des derniers mois, puisque, comme vous le savez, l'emploi reste assez fort, les dépenses de ménage ont été résilientes, et puis le prix de l'essence qui baisse aux États-Unis.
Et ben voilà quelques éléments à avoir en tête pour accueillir le plus efficacement possible ces chiffres de l'après-midi. Merci beaucoup Irina. Irina Topasseri donc depuis AXA IM, le marché parisien en baisse de 0,4% ce matin, 7273 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Marie-Cœur de Roy, bonjour.
Bonjour.
On s'adresse ce matin aux étudiants. En fin de semaine, ils vont commencer à recevoir leurs réponses sur Parcoursup.
Bonne chance.
Ce sera du même coup le coup d'envoi de la chasse au logement étudiant. Et cette année, ce sera encore plus compliqué que...
Ah, c'était déjà pas simple, hein.
Oui.
Ben oui, quand je vous dis qu'il y a un problème sur le marché locatif, voilà, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de demandes, de moins en moins d'offres, et ça provoque une hausse quasi générale des loyers, en particulier sur les biens de prédilection des étudiants, les studios. Et alors, pour en prendre la mesure, on a donc le site LocService qui nous donne quelques chiffres assez intéressants. Alors, évidemment, la région parisienne reste la région la plus chère, et c'est Paris en tête, on est autour de 880 € de loyer mensuel pour un studio à Paris. On est aussi autour des 700 € en grande banlieue parisienne. Alors derrière l'Île-de-France, les villes les plus chères, là non plus ça change pas. Nice 650 €, Lyon et Bordeaux un peu moins de 600 € de loyer mensuel pour un studio. En réalité, là où les tarifs augmentent le plus rapidement, c'est pas forcément dans ces très grandes villes, c'est dans d'autres villes qui ont vu naître un marché locatif. Vous savez, ces villes où on pouvait facilement auparavant devenir propriétaire et où aujourd'hui, bah, on a de plus en plus de difficultés à l'être, et donc ça fait quoi? Ça fait qu'on a un marché locatif qui est né et de plus en plus de locataires et donc des hausses quasi générales des loyers. Alors globalement la championne des hausses c'est Le Havre, plus 6% sur un an quand même, hein. Bon, Le Havre on est autour de 450 € du mètre carré, que dis-je, de loyer mensuel pour un studio. Le rêve ultime de loyer mensuel pour un studio, ça reste quand même deux fois moins cher que Paris, mais bon quand même, Le Havre plus forte hausse, hein, plus 6% sur un an. On est à plus 5% pour Strasbourg et Angers, plus 4% pour Marseille et Nantes.
Alors derrière cette question du niveau des loyers, Marie, les étudiants vont d'abord avoir du mal à trouver ces logements.
Mais oui, non, mais c'est ça. C'est pour payer plus cher, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais encore faut-il pouvoir payer plus cher et avoir le logement, parce que je vous disais, on a de moins en moins d'offres. Et ce qui est très intéressant dans les datas que nous donne LocService, c'est qu'on a aussi un ordre d'idée du nombre de demandes qui viennent d'étudiants par offre de studio à louer. Alors à Paris, faut compter seulement, je mets de gros guillemets, deux demandes étudiantes par offre de logement à louer. En fait, finalement, en termes de tension locative,
ils ont qu'à faire
sur
de la coloc.
Les étudiants. Mais vous êtes en train de rater ma chute là. Pourquoi vous gâchez ma chronique, Cédric? Je ne viendrai plus.
Oh.
Laissez-moi continuer. Donc, sur la tension locative, Paris n'est que la 10e ville la plus tendue de France pour les étudiants, je précise. Finalement, la première ville la plus tendue pour les étudiants, c'est Lyon. On a plus de 5 demandes de location par des étudiants pour une seule offre. Rennes arrive juste derrière. Viennent ensuite Angers, La Rochelle, Lille et Bordeaux avec plus de 3 demandes par offre. Même Nantes et Montpellier, pour les étudiants, c'est plus tendu que Paris. Faut le savoir. Ah non, vous avez donc tout intérêt, dès la fin de la semaine, dès que vous aurez vos réponses de Parcoursup, de commencer à chercher un logement. Et puis bon, je vais quand même la faire, ma chute, hein, même si vous avez essayé de me la gâcher. Mais pour info, la colocation, c'est une possibilité un petit peu moins onéreuse pour trouver un logement quand on est un étudiant. Il faut savoir que le loyer moyen pour une coloc, il est environ 15% moins élevé que le loyer moyen pour un studio. Merci Cédric, je ne reviendrai plus.
Bon, j'ai rien pu gâcher, je lis pas la chronique.
Non,
avant.
Mais ouais, c'est ça, il y a rien avant et donc du coup il découvre et puis il gâche tout. Bravo. Non, mais bravo.
Marie Cœur de Roy et la vie immo, on se retrouve demain,
oui,
pour le club immo.
Oui.
Notamment Virginie Grolot sera avec nous pour ce club immo demain vers 10h15.
Ouais. On arrête d'éventer les choses, hein, quand même.
À demain.
À demain.
Merci Marie.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Sarah Hollard est avec nous, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes notaire à Paris et on évoque ce matin un dispositif patrimonial méconnu, mais pourtant très important, le mandat de protection future. En clair, comment peut-on s'organiser en cas de maladie physique ou mentale pour protéger une ou des personnes et leur patrimoine? Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, c'est une solution qui, malheureusement, effectivement, vous l'avez dit, est peu... pas assez mis en pratique. C'est une solution qui permet effectivement d'anticiper ce qui pourra arriver dans le futur, c'est-à-dire une perte de ses facultés physiques, mais aussi mentales, et on peut le faire à la fois pour soi, mais aussi pour des parents qui ont un enfant handicapé, prévoir leur propre dépendance le jour où ils ne pourront plus eux-mêmes s'occuper de leur propre enfant.
C'est-à-dire que c'est le même type de mandat, que ce soit pour moi, pour mon conjoint, pour mon enfant pour...
Alors, il existe deux types de mandats. Il y a un mandat qui s'appelle le mandat notarié, qui effectivement est un mandat, le mandat que l'on fait à la fois pour soi, mais on peut aussi le faire pour autrui. Quand on le fait pour autrui, il est obligatoirement par acte notarié, donc devant notaire. Il existe aussi un mandat qui est un mandat sous sein privé, ou contresigné par acte d'avocat, sachant que le mandat notarié est pratiqué à 90%. Mais si on le fait pour son enfant, il faudra obligatoirement passer devant notaire pour le réaliser.
Généralement, quand on pense qu'il faut soutenir quelqu'un, l'entourer, enfin bref, on pense à des mots comme curatelle, comme tutelle. On est dans la même gamme, c'est différent
Alors c'est différent parce que le mandat de protection future, la première chose à retenir, c'est que c'est la personne qui décide pour elle-même, pour le moment où elle ne sera plus capable. Ce qui, contrairement à une protection judiciaire, hein, type tutelle ou curatelle, malheureusement, la personne se trouve déjà dans une phase où elle n'est plus en capacité de pouvoir décider seule. Le mandat de protection future, c'est une mesure sur mesure qui permet de pouvoir, à la fois pour son patrimoine, mais aussi pour soi, ou quand on est dans le cadre de protéger son enfant, de décider quelles seront les mesures qui seront prises pour un maintien à domicile ou au contraire pour un envoi en établissement, ce qui permet de pouvoir... au moment où on a encore la capacité de le faire, pouvoir décider complètement de ce que l'on fera pour soi.
Et donc, les notaires ont un rôle important, essentiel, obligatoire
Alors, on a un rôle de conseil indéniable. La particularité du mandat notarié, c'est qu'on va lui donner date certaine. Là où il y a encore des choses à améliorer, c'est que malheureusement, ce mandat aujourd'hui, et c'est ce qui sans doute empêche un certain nombre de personnes de passer à l'acte, malheureusement, ce mandat ne fait pas encore l'objet d'un enregistrement, ce qui est le cas quand on est sous une mesure de tutelle ou de curatelle. On a une mention qui va être portée sur un extrait d'acte de naissance, une mention, ce qu'on appelle RC. On n'a pas encore ce type de protection. En revanche, le notaire, lorsqu'on va effectivement conclure ce mandat, a un rôle essentiel de conseil et il va poursuivre son rôle puisque c'est lui qui ensuite sera en charge de vérifier justement les pouvoirs qui ont été confiés au mandataire et de vérifier de façon annuelle comment est-ce que ce mandat va s'exécuter puisqu'il y a une procédure de contrôle comme on la retrouve dans le cadre d'une tutelle puisque chaque année le mandataire doit rendre des comptes pour assurer la gestion de son mandat de façon convenable.
Alors justement, qui peut être mandataire entre guillemets? Est-ce que tout le monde peut l'être? Comment s'effectuent les contrôles? Parce que on se remet quand même, on remet son enfant entre les mains d'un tiers.
Alors son enfant ou soi, effectivement, ouais. On peut désigner toute personne physique ou morale, c'est-à-dire un institut par exemple, mais aussi tout professionnel, alors pas tout professionnel, mais tout professionnel qui se retrouvera sur une liste particulière qui sera enregistrée près du greffe. Cette liste, ça va être à la fois les notaires, des avocats, ça va être aussi des experts comptables, des experts en assurance parfois peuvent aussi être désignés, et le contrôle s'effectuera justement quand on est sous un mandat qui est fait par acte notarié. C'est le notaire qui annuellement va contrôler le rapport de gestion, c'est-à-dire qu'on devra rendre des comptes de sa gestion auprès du notaire qui vérifiera que si on a décidé justement d'essayer de pouvoir rester à domicile, que les choses aient été respectées en ce qui concerne les placements financiers, que tout ça soit respecté également, sachant que le mandat peut être, quand il est notarié, beaucoup plus vaste que sur un mandat sous sein privé. La seule particularité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas encore permis de pouvoir procéder directement dans le mandat, à désigner son mandataire pour procéder à la vente de sa résidence principale ou secondaire, qui sont encore des éléments qui sont protégés. En revanche, on peut décider d'ores et déjà de vendre des appartements locatifs et de prévoir que le mandataire aura ses pouvoirs.
Donc, si l'acte est notarié, c'est un professionnel qui est obligatoirement mandataire. C'est quand c'est sous sein privé qu'on peut prendre des oncles ou de la famille?
Alors non,
ou...
quand on désigne le mandataire que l'on veut au terme de ce mandat, le mandataire désigné peut être votre conjoint, votre enfant.
Et ça peut être plusieurs personnes, je ne sais pas, par exemple exactement. Les frères et sœurs d'un enfant handicapé.
Exactement, on peut désigner plusieurs enfants, plusieurs tiers également. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut, alors pas forcément désigner plusieurs en même temps, mais on peut, et on conseille souvent de prévoir à défaut, si la personne que l'on désigne malheureusement soit ne veut pas assumer assumer cette fonction le moment où le mandat se révèle, ou au contraire parce qu'il n'en a plus lui-même la capacité, ou alors parce qu'il est décédé, il est toujours bon de prévoir une mesure subsidiaire, effectivement, avec un tiers qui serait de nouveau désigné. Mais on peut très bien prévoir une ou plusieurs personnes dans le mandat, ça, il n'y a aucune difficulté.
Vous le sous-entendiez au début, c'est pas encore très connu, c'est pas encore très répandu. Il y en a pas beaucoup de ces mandats-ci.
Alors, on considère aujourd'hui qu'il y a à peu près 700 000 personnes en France qui sont des majeurs protégés, qui sont des majeurs sous une mesure de protection. On considère aujourd'hui que les chiffres, le mandat protection, ça a été créé il y a une quinzaine d'années. Les chiffres sont croissants. Pour autant, effectivement, ils sont largement insuffisants. On considère qu'il y a à peu près 20 000 mandats aujourd'hui par an de réalisés et à peu près 1 000 qui se trouvent activés. C'est-à-dire que 20 000 sont signés. En revanche, seulement un petit millier passe en activité.
Oui, parce qu'on le rappelle, c'est futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le signe alors que, entre guillemets, tout va bien. Oui. D'ailleurs, on précise que ce n'est pas autoréalisateur. Hein. Ce n'est pas parce qu'on le signe que forcément ça s'appliquera. C'est un peu comme faire son testament.
Alors, qui lui, normalement, trouvera oui. s'appliquer,
un jour,
sauf
un
s'il
moment,
est mal rédigé.
Oui. Mais ça ne provoque pas le décès anticipé que de rédiger son testament.
Exactement.
Bon, et pourtant, les gens ne le font pas.
Alors, parce que malheureusement, je pense qu'il y a un gros problème de méconnaissance. C'est ce que la profession essaye, justement, par des mesures de communication, d'essayer de faire, de promouvoir cette disposition qui, dans sa certains pays étrangers est extrêmement reconnu. C'est au Canada, par exemple, il y a 44% de la population qui a déjà fait un mandat de protection future. On manque de communication sur le sujet et on a, en France, c'est vrai, des difficultés quand on va bien à parler. On le voit, nous, dans notre
ouais,
quotidien.
Ça.
On a du mal quand on est avec des personnes qui sont encore en pleine activité, en pleine santé, de parler du jour où ça ira moins bien. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'on est dans une population vieillissante, c'est un fait.
D'autant que, dites-moi si je me trompe, mais ce mandat, il peut être préparé, activé, puis si la situation se résout, désactivé.
Enfin, je veux dire,
c'est pas un truc définitif
non,
où on se met entre les mains de quelqu'un jusqu'à la fin.
On le rédige, ouais. Tant qu'il n'est pas activé, on peut à tout moment revenir dessus, on peut à tout moment le défaire, ce mandat, tant qu'il n'a pas d'activité. Et puis s'il est activé et que finalement la personne retrouve sa capacité, parce que ça peut être une altération physique, exactement,
ouais.
Il se retrouvera suspendu.
Qui clique?
Alors,
qui dit maintenant il faut passer sous le mandat?
C'est la personne qui est désignée mandataire, justement, si on désigne son enfant pour s'occuper de soi. C'est l'enfant qui, au moment où la personne perd sa capacité, va devoir aller auprès d'un médecin spécialisé recueillir un certificat médical attestant que la personne n'a plus sa capacité pour exercer seule et devra effectivement ensuite auprès du tribunal faire activer ce certificat.
Exactement.
La grosse différence avec une mesure de protection type tutelle, c'est que dans le mandat de protection future, la personne ne perd pas sa capacité juridique, c'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, continuer à aller voter. Alors, bien évidemment, en fonction de l'état de ses facultés.
Oui.
Mais,
ou acheter son pain, enfin,
exactement,
je veux dire, demande pas au mandataire pour tout et n'importe
exactement,
quoi.
Exactement, et ce n'est pas une perte définitive de ses facultés, de ses capacités juridiques. Ça pourra être limité à ce que le mandat gérera pour elle, et puis le reste, la personne pourra conserver ses facultés.
Oser en parler.
Exactement.
Sarah Hollard, notaire à Paris, merci d'être venue nous parler de ce mandat de protection future qu'il faut appréhender désormais. Dans un instant, on fera un détour par les marchés et on continue ensuite à vous donner un maximum de conseils. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
À 10h30, chaque matin, deux traders vous ouvrent leurs écrans pour lire la séance graphiquement. Comme chaque jour, c'est Jean-Louis Cussac qui nous attend chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et Romain Daubry, au sein de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour
Cédric,
bonjour.
Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Commençons avec vous, Romain. Quelle lecture faites-vous de la séance du jour?
Bien, la séance du jour, elle est un petit peu attentiste. Ce qu'on peut en dire, c'est que même si on a consolidé ou un peu baissé au cours des séances précédentes, on n'a jamais eu de pression baissière. Donc ça, c'est quand même un signal intéressant, la spéculation n'a pas l'air de vouloir appuyer sur le mouvement. Au contraire, on a même des forces de rappel assez intéressantes. Il y a un élément technique et graphique important à noter. On en a parlé souvent ensemble. Le gap baissier du 22 août dernier sur le S&P 500 est peut-être en passe d'être comblé, puisque le futur S&P 500 est au-delà de ce niveau-là pour l'instant légèrement. Donc 4218,70. Ça, c'est un signal important, puisque c'est un gap hebdomadaire. C'était lourd graphiquement. Du côté des indicateurs techniques, donc je vous le disais, pas de pression baissière sur le futur. Un niveau de couverture qui est pas très important, qui frôle l'optimisme. On n'est pas en complaisance pour autant. La volatilité et le VIX, par exemple, sont sous 18. Donc, on est un peu plus optimiste. On n'est plus en vigilance. Mais il n'y a pas d'alerte majeure de ce côté-là. On n'a pas énormément de drivers aujourd'hui. En revanche, la semaine va être dense en indications macroéconomiques à partir de jeudi notamment, avec l'indice des prix à la consommation et puis les minutes de la BCE en Europe, les PMI donc, et puis les directeurs d'achat donc aux États-Unis, et puis l'enquête ADP, et surtout les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi. Donc ça va s'animer un petit peu. Graphiquement, pour l'instant, on est pour moi sur le CAC 40 futur dans un trading range situé entre 7192 et 7287. On a une médiane à un niveau important à 7232. Si on déborde 287, on pourrait réactiver la dynamique haussière de court terme et aller chercher au moins 7372, 7384. Et puis pourquoi pas les tops ensuite. Le premier niveau d'alerte, il est un peu plus bas, c'est sous 7158. Si on rompt ce niveau-là, on a des chances d'aller chercher l'alerte de moyen terme sur le CAC 40, qui est une zone large dans laquelle on a donné une plage, 6994, 7074. Donc pas de danger et un biais qui est plutôt fort et solide encore sur le marché, même si on manque un peu de driver aujourd'hui.
Voilà la vision proposée par Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, chez Perceval, quelle lecture faites-vous de notre tendance aujourd'hui ?
350 millions d'échangés, c'est très faible. Alors, en effet, les marchés sont en situation plutôt d'attente, en se demandant qu'est-ce qui va maintenant advenir sur les taux, des décisions de la Fed, est-ce qu'ils vont encore monter les taux. C'est à 100% attendu, hein, mais sur les courbes de taux. Mais là, les marchés semblent pas, si vous voulez, être perturbés par cette éventualité. Ils bougent pas ce matin. Alors, pourquoi je dis qu'il bouge pas? Parce que le CAC 40 perd 0,49 à peu près, et on a 0,49 de dividendes. C'est-à-dire qu'on a Crédit Agricole, Safran, Sanofi, Capgemini, Société Générale qui détachent et qui impactent le CAC d'environ 34 points. Alors là, le CAC 40 cash donc, et le futur sont quasi au même niveau. Le futur est un petit peu au-dessus parce que il reste encore 5 points de dividende, mais il y a des taux d'intérêt qui s'appliquent maintenant sur la période à venir. C'est fini la période où les taux étaient à zéro, donc faut penser à ça. Donc les taux, c'est prorata temporis, c'est-à-dire que l'écart diminue au fur et à mesure que le temps passe sur les taux. Et au niveau des dividendes, c'est lorsque le détachement du dividende se fait. Tant qu'on est au-dessus de 7220, pour moi, on a un biais un peu haussier. En dessous, un biais un peu baissier. On est neutre. Ce matin, on a fait acheter à 8h, on a proposé 7248,5. On a fait 47,5, alors ça pouvait pas être mieux. Ça, c'est, on va dire que pour nous, c'est fait. Déjà, on a le point bas, potentiellement, en tout cas pour ce matin. Après, on peut recommencer en double appui. Et ce point bas, justement, ça s'applique, c'est quoi? C'est le pullback, on le voit graphiquement sur les zones de résistance des précédents mouvements de hausse. On a fait deux fois la zone des 7250. On a diminué un tout petit peu parce que les taux d'intérêt se sont écoulés et donc on pouvait gratter quelques points. C'est pour ça qu'on a mis 48,5. Pour l'instant, il n'y a pas de grande décision à prendre. Nous, on passe beaucoup par des achats de call ou des achats de put. Au moins comme ça on sait ce qu'on perd, et sur les futurs, comme on n'attend pas de fort directionnel, on va garder un comportement opportuniste. Voilà, on va pêcher un peu parfois nos troubles. Le marché fait des écarts comme ce matin, il est parti de 290, il est allé chercher 47 en quelques secondes sur le futur. Vous voyez, donc ça tient, on enfonce des portes ouvertes, ça tient pas grand chose, il y a des arbitrages, il y a un peu de spéculation, et les intérêts de conviction sont assez modestes. Et c'est normal, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On attend maintenant que, évidemment, on vote pour le plafond de la dette, donc ça remontait. Il n'y a pas grand-chose à signaler globalement.
D'accord.
Donc 7220, gardez en tête, au-dessus un peu haussier, en dessous un petit peu baissier.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil, et Romain Daubry au sein de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30 pour suivre cette séance du jour, et notre CAC 40 qui est en baisse de 0,5%, 7265 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Stéphane Pedrazzi, bonjour.
Bonjour.
Première usine géante française de batteries électriques. On est dans le nord de la France. Est-ce que l'investissement est à la hauteur des enjeux ?
En tout cas, l'enjeu, il est colossal. Les batteries peuvent représenter jusqu'à 40% de la valeur d'un véhicule électrique. Et on estime qu'à l'horizon 2025, l'Europe va représenter environ 20% du marché mondial des batteries. Alors, est-ce que cette nouvelle usine, elle est à la hauteur des enjeux? En termes d'investissement, les montants sont conséquents. La première tranche de cette usine, située à Douvrin, coûte près de 800 millions d'euros. Au total, c'est un investissement qui va frôler les 7 milliards d'euros. Ça n'est pas si ridicule que ça, si on compare notamment avec les moyens qui sont déployés en Chine, qui a levé l'été dernier 10 milliards de dollars pour sa filière batterie. Donc on est quand même dans l'ordre de grandeur, même si effectivement pour l'instant on n'a qu'une usine en France, alors qu'il y en a énormément en Chine. Mais le montant n'est pas ridicule. Maintenant, la véritable difficulté, ça va être la montée en compétences de cette usine. L'économiste Christian Saint-Etienne était avec nous ce matin. Il nous expliquait que la production de batteries de nouvelle génération, c'est quelque chose de très compliqué et qu'il va falloir donc monter progressivement en compétences pour éviter d'avoir un taux de rebut important. Au début, on est de l'ordre de 30%. L'objectif, c'est d'atteindre 5%. Et ça ne se fait pas en quelques semaines. Et puis, l'autre défi, ça va être de créer d'autres usines similaires pour rattraper notre retard par rapport à la Chine et pour pouvoir répondre à la demande, puisque l'Union européenne a programmé, vous le savez, la fin des véhicules thermiques. C'est pour ça que les subventions sont vraiment à la hauteur de cet enjeu. On le rappelle, 800 millions d'euros pour la France de subventions, 500 millions d'euros pour l'Allemagne. C'est évidemment non négligeable.
Et tout le monde y est ou il n'y a pas d'union sacrée? On pense notamment aux constructeurs hexagonaux.
Alors non, tous les constructeurs français ne sont pas autour de la table, et c'est ça aussi, politiquement, ça fait défaut et c'est peut-être dommage. Autour de la table, il y a Stellantis, Mercedes et Total Energy. Renault ne fait pas partie de l'aventure. Ensuite, il y a la question des matières premières, c'est-à-dire que le lithium dont on a besoin pour les batteries des véhicules électriques, le lithium, il est produit essentiellement par l'Australie, par le Chili, la Chine et l'Argentine. Le raffinage des terres rares, il est effectué en grande majorité à 90% par la Chine. Donc on a un vrai problème de matières premières. C'est bien gentil d'avoir une usine dans le nord de la France, mais en cas de conflit, en cas de tension sur le marché des métaux au niveau international, on n'aura pas les ingrédients qui vont nous permettre de construire des batteries. Donc ça, c'est évidemment un sujet pour lequel on n'a pas de réponse pour l'instant.
Et puis il y a la question du coût de production aussi.
Oui, alors évidemment, la main-d'œuvre est plus chère en France qu'elle ne l'est en Chine, ça n'aura échappé à personne. Donc ces batteries produites en France, elles vont être plus chères. Après, elles vont aussi être plus décarbonées. En France, on va produire des batteries avec de l'électricité largement décarbonée. Ça n'est pas le cas en Chine. Je vous rappelle que les batteries qu'aujourd'hui on achète en Chine, elles sont produites pour l'essentiel avec de l'électricité produite à partir d'énergie fossile. Et notamment du charbon. Donc il y a un coût effectivement de production, mais
vert,
il y a aussi un coût carbone.
Ou un coût marron, ou un coût noir, on ne sait pas.
Voilà.
On va déterminer la couleur. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Pedrazzi et la polémique du jour. Le marché parisien, toujours en baisse.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Jérôme Dédéian.
Bonjour Cédric. Tu ne vaux pas un seul centime, que t'appartiens à la société anonyme.
Jérôme, vous êtes entrepreneur, actionnaire de vos entreprises, et cette chanson d'Eddie Mitchell que vous avez choisie ne vous concerne pas. Pourquoi est-ce que vous voulez la passer?
Eh bien, je vous ai demandé de la passer. Société anonyme d'Eddie Mitchell, une chanson mythique, mythique pour moi, car vous savez que j'ai commencé ma carrière comme cadre non révolutionnaire de grands groupes, et que le jour où j'ai quitté cette voie, le dernier jour de travail de cadre, où le lendemain je crée mon entreprise avec mes premiers associés, c'est cette chanson-là que je chantais à tue-tête dans ma voiture en rentrant chez moi. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Mais figurez-vous que cette phrase est fausse. Évidemment. Car en effet, quand vous êtes salarié d'une société, vous n'êtes pas forcément dans la situation où rien n'est à vous, vous ne valez pas un seul centime, tout appartient à votre employeur. En fait, vous pouvez être associé au capital de votre entreprise et ça peut rapporter gros.
Et donc, vous voulez nous parler d'actionnariat salarié.
Exactement. Et je vais essayer de le faire en nous mettant à la place de nos auditeurs et téléspectateurs, car ils sont nombreux à pouvoir devenir actionnaire de leur entreprise, mais ils ne comprennent pas toujours les enjeux de la proposition qui leur est faite.
Combien y a-t-il d'actionnaires, enfin de salariés actionnaires de leur entreprise en France ?
Alors on dit, estimation, qu'il y en a 3 300 000 sur 26 millions de salariés du secteur privé, donc un bon gros 12-13%, quoi. C'est quand même pas mal.
Bon, non coté vraiment, parce que l'actionnaire salarié, ça n'est pas essentiellement dans les grandes entreprises
cotées. Vous avez raison, Cédric, sur cette estimation de 3,3 millions, il y en a 2,8 millions, on les connaît, qui sont dans les entreprises cotées en bourse. Et il y en a environ 500 000, là c'est plus compliqué, sont dans des entreprises non cotées. Ça fait quand même 500 000 personnes. En fait, pour le dire simplement, il y a 8 entreprises sur 10 cotées en bourse qui proposent à tous leurs collaborateurs, ou à la majorité de leurs collaborateurs, de rentrer au capital, de devenir actionnaire salarié. Et il y en a seulement 9% dans les entreprises non cotées, mais c'est en train de monter puisque par rapport à il y a 5 ans, c'est le double. Il n'y en avait que 4% il y a 5 ans, il y en a 9% aujourd'hui, entreprises non cotées, bon, qui proposent d'être actionnaire salarié.
Donc on résume, vous êtes salarié du secteur privé, il y a 8 chances sur 10 pour que vous soyez ou que vous puissiez être actionnaire de votre entreprise si elle est cotée en bourse et une chance sur 10 si elle est non cotée.
Exactement. Et si on vous le propose, il faut essayer de se jeter sur l'occasion parce que ça peut rapporter gros.
Alors, ça peut rapporter gros, mais il y a aussi des risques en face. L'actionnaire salarié, ce sont des actions et concentrées sur le risque d'une seule entreprise dont dépend déjà notre salaire. Enfin, voilà,
vous avez parfaitement raison, Cédric, mais il faut savoir que la plupart des plans d'actionnariat salarié qui sont proposés par les entreprises mettent en œuvre des moyens importants pour mitiguer, pour limiter le risque pris par les actionnaires salariés. Et en fait, si on prend, on explique ces techniques, en fait, on comprend beaucoup mieux ce qui peut nous être proposé quand on est salarié d'une entreprise.
Alors, premier filtre, travaillez-vous pour une entreprise cotée ? Si oui, on est a priori actionnaire soit via le plan d'épargne, soit avec des attributions gratuites, c'est ça ?
Exactement, ou les deux. Et c'est vraiment les deux techniques les plus couramment pratiquées. Il y en a d'autres, bien sûr, dans la boîte à outils, mais on peut se concentrer sur celles-là parce que ce sont celles qui sont le plus souvent proposées aux gens. Alors, commençons par les attributions gratuites d'actions. Comme leur nom l'indique, elles permettent de devenir actionnaire de son entreprise gratuitement, c'est-à-dire sans payer. passer quand même des conditions, c'est-à-dire d'abord un délai qui est généralement fixé dans la plupart des plans entre 2 et 5 ans, minimum un an. Un an entre le moment où on me dit tu pourras devenir actionnaire et le moment où je suis effectivement actionnaire. Et évidemment, sous condition de présence, c'est-à-dire qu'il faut que je sois à l'effectif passer ce délai dit d'acquisition pour que je devienne effectivement actionnaire. Et le cas échéant, sous condition de performance qui peuvent plus ou moins déclencher un nombre d'actions dépendant de comment l'entreprise a marché. Et donc, ça, c'est assez simple. Vous n'avez absolument rien à payer. Vous devenez actionnaire si vous êtes présent, passez ce délai, et si les conditions de performance sont atteintes, s'il y en avait. Et vous ne payez rien tant que vous n'avez pas cédé vos actions. Vous n'avez pas d'avance de fiscalité à faire. Et vous savez que depuis qu'on a réformé la fiscalité des actions gratuites dans le premier quinquennat Macron, en fait, on est désormais assez raisonnablement taxé. En gros, il faut compter que le jour où vous vendrez vos actions, il y a à peu près un tiers du gain que vous allez devoir payer en taxes. Donc c'est taxé, mais raisonnablement taxé. Et surtout, ça ne vous a rien coûté, vous encaissez le net.
Eh ben oui, voilà. Alors, il y a le plan d'épargne entreprise aussi.
Alors, la deuxième technique, elle est évidemment très couramment pratiquée aussi par toutes les entreprises cotées. On vous propose d'acheter des actions de votre entreprise, généralement via un véhicule dédié, un fonds commun de placement d'entreprise investi en titres cotés en bourse de votre entreprise.
Donc là, on a des parts du fonds.
Exactement, qui détient des actions. Et pour limiter votre risque, on vous propose premièrement de l'abondement. C'est-à-dire qu'on rajoute à votre effort d'épargne. Cet abondement, il peut aller assez loin, puisqu'on est à plus de 6 000 euros par personne et par an, si l'entreprise fait le plein de ce qu'elle a le droit de faire pour vous aider à devenir actionnaire salarié. Et vous savez que c'est 3 pour 1. On peut mettre jusqu'à 3 euros pour 1 euro investi. Donc, vous mettez 2 000, vous avez 6 000. Donc, ça fait 8 000 à investir, d'accord, à grande masse. Et tout ça peut acheter des actions de votre entreprise décotées par rapport au cours de bourse. Donc, vous pouvez avoir une décote jusqu'à 30% du prix. Donc je vais donner un exemple très très concret pour qu'on comprenne bien. Même si l'entreprise ne va pas au taquet des dispositifs, si on vous propose chaque année d'investir 2000 euros dans votre entreprise avec 100% d'abondement, donc 2000 plus 2000 ça fait 4000,
oui,
achetant des actions décotées, pas de 30 décote maximale mais de 20%, ça veut dire que vous allez vous retrouver au bout de 10 ans, si vous avez participé tous les ans, avec un pactole de 30 000 euros que vous avez payé 10 000 euros
Donc vous avez fait x3 sur votre investissement, lissé dans le temps, voilà, en admettant évidemment que le cours de bourse de votre entreprise soit resté stable ou légèrement progressé. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faudrait que l'action de votre groupe perde les deux tiers de sa valeur pour que vous commenciez à entamer l'investissement personnel qu'on vous a demandé de consentir. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un parachute considérable. Dernier point, toujours en entreprise cotée, on fait parfois des fonds structurés, on en parle souvent à votre antenne, mais dont le sous-jacent n'est pas un indice ou un panier d'indices ou un panier de valeurs, mais l'action de l'entreprise cotée. Et donc on vous propose en fait une garantie en capital dans votre investissement, et en consommant dans le montage l'abondement et la décote consentie par l'employeur, on va vous promettre une garantie du capital sur ce que vous avez mis à risque, et on va vous donner une participation à la hausse de l'action, si hausse de l'action il y a eu.
Bon, mais ça concerne que les entreprises cotées.
Alors, ça,
ces avantages
couramment pratiqué dans 8 entreprises cotées sur 10, je vous l'ai dit, mais évidemment, à part les fonds structurés, puisque quand le sous-jacent est de côté, je ne peux pas structurer une proposition,
tout le reste est disponible.
Sur la décote, sur l'abondement, etc., est possible dans les entreprises non cotées, exactement dans les mêmes conditions, en direct ou via un fonds commun de placement d'entreprise. Et dans une entreprise non cotée, je peux aussi recevoir des actions gratuites, comme je l'ai expliqué pour les entreprises cotées.
Oui.
La seule différence, c'est évidemment que, comme il n'y a pas de marché de cotation en bourse,
vous j'ai des actions, mais je ne peux rien en faire.
Vous n'avez pas de liquidité. Et c'est là où, généralement, dans ce qu'on appelle l'engagement contractuel ou le mini-pacte d'actionnaires qu'on vous propose de signer ou que signe le fonds commun de placement d'entreprise de votre plan d'épargne avec les actionnaires, on va offrir des fenêtres de liquidité qu'on n'est pas obligé de vous offrir, mais qu'on peut décider de vous offrir. Et puis, il y a évidemment les cas de déblocage code du travail dans le PE, et puis tous les cas d'entreprises qui sont accompagnées par des investisseurs, hein, ce qu'on appelle les boîtes sous LBO. Ouais. Quand un fonds d'investissement sort et qu'un nouveau rentre, ça crée une fenêtre de liquidité où vous pouvez, si on vous a fait une proposition d'actionnariat salarié, prendre votre plus-value et, le cas échéant, la réinvestir dans le tour suivant.
Bon, donc
dernier point sur les entreprises non cotées. Souvent, pour éviter d'avoir les actionnaires à l'Assemblée Générale, parce que c'est trop compliqué, on ne va pas réunir dans l'auditorium de la porte-maillot ou de la salle des fêtes de votre village, du village de l'entreprise, tout le monde, on vous fait généralement passer par ce qu'on appelle une ManCo, une management company, c'est-à-dire une société des salariés ou société des cadres quand le plan est ciblé, pour que la gouvernance avec vous, actionnaires salariés, et vos pairs soit à l'intérieur de cette structure et non pas à l'Assemblée Générale de la société principale.
Bon, on comprend bien l'intérêt, d'abord même financier, de ce que vous nous proposez. Mais depuis qu'on discute, à part la musique, c'est hyper technique.
Alors, vous avez raison, Cédric. C'est parfois assez technique, mais généralement, quand il y a un plan d'actionnariat salarié qui est mis en place dans votre entreprise, vous avez une communication et une pédagogie adaptée qui sont déployées avec les conseils qui ont accompagné l'entreprise, quel qu'il soit, pour monter le plan. Par ailleurs, il y a une règle qui est extrêmement simple, c'est que pour limiter votre risque, c'est exactement comme tout investissement en action, vous devez participer à toutes les opérations qu'on vous propose et non pas à une seule en mettant 3 ans de salaire à risque d'un seul coup. Participez régulièrement, comme tout investissement en action. Prenez la décote et l'abondement. Et puis, sécurisez régulièrement vos plus-values sur les actions de votre entreprise. Parce que si vous faites carrière dans une boîte qui vous le propose régulièrement, vous pouvez finir avec un enjeu dans votre épargne financière de poids, de concentrer sur l'action de votre entreprise qui est trop élevé en diversification. Et pour faire tout ça, eh ben en fait, il faut faire appel à un professionnel. Typiquement, chez mon partenaire patrimoine, on a énormément de cadres ou de salariés ou d'entreprises qu'on accompagne sur ces enjeux-là. Et on donne un conseil personnalisé à chacun en fonction de sa situation personnelle, de son épargne de précaution, de la structure des plans que propose l'entreprise, pour les aider à discerner combien mettre, quand sécuriser sa plus-value. Non. Et puis parfois, quand ça représente des enjeux importants au terme d'une bonne carrière dans une société anonyme, où à ce moment-là, tout peut être à vous, vous valez beaucoup plus que quelques centimes, car tout n'appartient pas seulement à la société anonyme, mais aussi à vous qui êtes associé à votre entreprise, vous pouvez avoir des enjeux de transmission sur cet actionnariat salarié.
Eddy Mitchell, réinterprété par Jérôme Dédéian. On se retrouve tout à l'heure.
Oui, Cédric.
Vous répondrez aux questions des auditeurs. D'ici là, on continue bien évidemment à vous accompagner dans le monde de vos placements.